Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et nous sommes au cœur de l'actualité dans le goût d'entreprendre. Tout ce qui touche à notre planète et à notre environnement, Ethikis Activis, c'est une société coopérative qui nous aide à mieux consommer. Elle vient de créer le premier label européen qui lutte contre l'obsolescence programmée. Vous allez l'entendre, il sera beaucoup question d'éthique dans ce numéro du goût d'entreprendre. Elsa Lomont et Florent Preguesuelo sont les fondateurs d'Ethikis Activis. Ils sont nos invités aujourd'hui. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Vous faites partie de ces entrepreneurs qui veulent faire bouger les lignes et vous voulez faire quelque chose pour notre planète et lutter contre la consommation à outrance. Quel est l'ADN d'Ethikis Activis ?
Alors, l'ADN d'Ethikis, c'est évidemment de faire sa part. En tant que citoyen, Nous sommes témoins des difficultés qu'il peut y avoir, notamment dans la consommation, dans la lutte contre la transition écologique.
Ouais, ouais.
Et donc, l'idée, ça a été vraiment de créer un outil qui soit le plus pragmatique possible, qui nous aide, nous, consommateurs, à nous guider, à guider nos achats et qui fasse le pas aussi de mettre sur le devant de la scène les fabricants qui jouent le jeu de produire en l'occurrence des biens qui soient plus durables dans le temps.
D'accord, c'est ça, on va y revenir, hein. C'est l'obsolescence programmée, on va en parler puisqu'elle est encadrée aujourd'hui. Comment est née cette idée ? Vous vous êtes dit à un moment, on consomme trop, c'est plus possible, il faut qu'on arrête.
Exactement. Il y a de plus en plus de références de produits dans les magasins. Il y a de plus en plus de déchets prématurés dans les déchetteries, dans la rue. Et au final, il y avait un manque d'informations au moment en fait de choisir comment consommer, quels produits acheter.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est vraiment face au manque d'informations qu'est née cette idée de label.
Vous vous positionnez comme conseil ? Conseil à l'achat ?
Exactement. On est un guide pour le consommateur. Ouais. On est un accompagnement pour les fabricants. Donc, pour pouvoir mettre sur le devant de la scène les bonnes pratiques, aider parfois à la transition, en fait, puisque on travaille avec des fabricants qui ont la volonté de mieux faire.
Ouais,
donc, c'est
aussi
les accompagner en ce sens. Donc, voilà, un guide et dans le conseil. C'est vrai qu'on n'est pas militant en tant que tel. On offre les solutions de bien faire et de faire facilement.
Alors, concrètement, que faites-vous ? Alors, on va commencer par le côté marque. Que faites-vous pour les marques ou avec les marques ou contre les marques ?
Alors, rien de contre. Il faut savoir que
Longtime... Rien de méchant.
Non, Longtime est une démarche éminemment positive.
Longtime, c'est le nom du label.
C'est le nom du label,
voilà,
exactement.
Que vous avez créé.
Exactement. C'est un peu le label rouge de l'électroménager.
Voilà, tout à fait. Là, c'est plus clair, effectivement.
Voilà. Donc, Longtime, c'est une démarche positive pour les fabricants. C'est un moyen complètement impartial et transparent de montrer les efforts qu'il fait au quotidien pour rendre son produit plus réparable et plus durable dans le temps.
D'accord.
Voilà. Donc, comment on a créé cet outil ? On a recensé une quarantaine de critères dans ce qu'on appelle le cahier des charges du label. On a travaillé avec un organisme de certification pour élaborer un processus de contrôle. Et donc, dans le processus de labellisation, le fabricant, via un audit qui est indépendant, donc là, on travaille avec des organismes de certification, va se mettre à nu et prouver, en fait, la conformité qu'il a aux critères du label.
Aux critères du label, d'accord, ok. Alors, on parle d'obsolescence programmée, hein, c'est surtout, en fait, tout tourne autour de ça, j'allais dire, dans ce label. Qu'est-ce que l'obsolescence programmée ? Comment vous la définissez ?
Alors, la définition de l'obsolescence programmée, ce sont toutes les techniques qui visent à réduire la durée de vie d'un bien. On peut trop facilement considérer que c'est la petite puce qui est dans votre machine et qui fait qu'au bout d'un certain temps, elle s'arrête. Donc, ça va plus loin que ça. C'est pour ça qu'on aime bien parler d'obsolescence organisée, puisqu'en fait, le fait que vous ne puissiez pas démonter, par exemple, votre grille-pain, c'est une forme d'obsolescence. qui dit qu'on ne peut pas le démonter. Dès lors qu'il y a une panne, on ne peut pas accéder aux composants pour éventuellement le réparer. Et donc, on est poussé à renouveler son produit.
Il existe effectivement plusieurs formes d'obsolescence programmée. On pourrait parler d'un côté esthétique aussi.
Il y a effectivement le côté esthétique. Alors là, avec l'exemple type qui est le smartphone, où on a tendance, alors qu'il marche encore, à le renouveler tous les un an et demi, les 18 mois, je crois que c'est en moyenne. Voilà. Et alors, la faute est partagée, hein, et les responsabilités sont partagées. Il y a effectivement un matraquage publicitaire d'un côté, où les marques nous poussent à éveiller ce désir de renouveler, tout ça. Et de notre côté, le consommateur qui ne considère pas que l'outil marche encore et qu'on pourrait continuer de l'utiliser.
Et que c'est mieux de changer parce que c'est plus tendance.
Et parce que c'est plus tendance.
Y a aussi l'obsolescence par notification. C'est ça? Alors, je prends les exemples avec les imprimantes, par exemple. C'est-à-dire que on change l'imprimante parce que ça coûte plus cher d'acheter une cartouche que de racheter une imprimante.
Ouais, effectivement. Alors là, avec un cas bien précis qui est l'imprimante, où il y a un modèle économique qui repose sur ça, sur l'achat d'un produit qui est peu cher avec des consommables qui sont très chers. C'est un cas très spécifique à l'imprimante, mais le fait de le prix de la réparation est un enjeu majeur, puisqu'effectivement, souvent, on a tendance à mettre en parallèle qu'est-ce que ça va me coûter de le faire réparer, qu'est-ce que ça va me coûter d'en acheter un neuf. Et alors, on connaît avec les opérations type Black Friday et tout autre type de campagne.
Ouais, exactement. Voilà. Donc, pour nous faire dépenser plus. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour ça?
Eh bien, nous, via le label, l'idée, c'est déjà de conscientiser, de responsabiliser et de mieux informer.
Ouais.
Donc, on part du principe qu'il y a quand même beaucoup de consommateurs, et c'est un fait, qui ont envie de faire changer les choses, qui ont envie de bien faire. Mais il faut que ce soit simple aussi.
Bien sûr.
Donc là, c'est vraiment via un marquage en magasin. Donc, vous avez la possibilité de repérer directement dans un clin d'œil que ce produit est conçu pour durer. Dès lors que l'on acquiert un produit qui est conçu pour durer, on sait que, on ne dit pas qu'il tombera jamais en panne, mais on sait que dès qu'une panne se déclare, tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter sa réparation.
D'accord.
Donc là, le consommateur va être incité à aller soit chez son réparateur, soit à rappeler la marque, parce que tout est mis en œuvre pour que ce soit facile et qu'il soit incité à réparer. Et ce, à des tarifs qui soient économiquement viables.
C'est ça, voilà.
Donc, c'est vraiment l'association de ces 40 critères qui composent le label Longtime, qui sont totalement consultables sur le site Internet. Voilà, c'est le fait qu'ils répondent à tous ces critères. Voilà, et on part du principe que dès lors qu'on va acheter un produit qui est conçu pour durer, mine de rien, on va aussi mieux l'entretenir. On va aussi faire attention dans son usage. Et ça aussi, c'est quand même de la responsabilité du consommateur de faire tout pour allonger la durée de vie du produit.
Alors, comment on va reconnaître un produit long time? Il y a le label qui sera posé dessus.
Il y a le label, voilà, qui a un 8 qui ressemble au signe de l'infini. Je vous invite à aller le voir peut-être
sur le site.
Sur le site.
Vous nous rappelez l'adresse tout de suite si nos auditeurs veulent y aller en direct.
Oui, labellongtime.com.
Voilà, tout simplement. Donc, on va en boutique, par exemple, ou sur un site internet du e-commerce et on peut trouver ce label.
Et on peut trouver ce label. Alors, l'heure où je vous parle, pas encore sur énormément de produits, puisque là, on finalise le processus.
Ouais.
On était hier, justement, au deuxième audit test. Donc, on finalise le processus. Et là, on commence à travailler avec les fabricants volontaires pour que, d'ici à 2 mois, on soit en mesure de vous présenter la première gamme de produits labellisés.
D'accord. Est-ce que les produits seront plus chers au départ?
Il n'y a pas de raison qu'ils soient plus chers. La seule chose, c'est que, au moins face au prix, vous aurez une information de qualité et de robustesse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque malheureusement, c'est un peu la loterie de la qualité. On va dans un rayon, on a l'impression qu'on acquiert un produit qui soit plus qualitatif parce qu'il est plus cher, mais on sait très bien, tout un chacun par l'expérience, que c'est pas forcément le cas, que des marques peuvent jouer sur la notoriété, puis finalement on change de composants, de matériaux, bref. Donc là, ce qui est sûr, c'est que chaque produit long time se sera soumis à un audit qui est précis, qui est exigeant et qui vous offrira des qualités avérées.
Vous travaillez avec le ministère de la Transition écologique.
Tout à fait.
Alors comment vous avez travaillé avec eux, avec ce ministère ?
Alors, le ministère de la Transition écologique, lors de la feuille de route pour l'économie circulaire, il y a une mesure qui a été prise, une mesure forte, qui est de mieux informer les consommateurs, justement, pour une consommation qui soit plus responsable. Et l'une des mesures, c'est l'établissement d'un indice de réparabilité. Donc, indice de réparabilité qui est co-construit par tous les acteurs. Donc, c'est un peu le processus qu'on avait fait il y a deux ans, qu'on a lancé il y a deux ans pour le label Long Time. Donc là, autour de la table sont représentés des acteurs de fabricants, des fédérations, des réparateurs, des associations de consommateurs, des associations environnementales. Et donc, voilà, on travaille à élaborer cet indice de réparabilité. Et nous, en l'occurrence, on met à profit l'expérience qu'on a pu avoir en termes d'élaboration de critères, de moyens de contrôle.
Vous restez avec nous, Elsa. On en reparle tout de suite. On parlera également de votre parcours et de celui de votre associé et cofondateur. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission, nous sommes toujours en compagnie d'Elsa Lomond de la société Ethikis Activis. Bonjour Jean-Marc Fontaine.
Bonjour Doris.
Un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Jean-Marc, première question à Elsa.
Bonjour Elsa.
Bonjour.
Quand on s'engage dans une démarche qui vient en quelque sorte contrarier des pratiques industrielles utilisées par beaucoup et depuis longtemps, est-ce qu'on arrive malgré tout à trouver des partenaires financiers pour soutenir le projet ? Et qui sont-ils ?
Alors, très bonne question. Les partenaires financiers, donc nous, on a la particularité de s'être développé en coopérative. Mm-hmm. Donc, on s'inscrit dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui a été le frein majeur à la recherche de financement, puisque le principe même d'une coopérative, c'est que l'actionnariat n'est pas volatile. Enfin, il n'y a pas de spéculation possible et on ne peut pas diluer le capital. Donc, c'est plutôt en ce sens-là que, en tant que start-up, si on peut dire, mais start-up sociale, ça a été difficile. Enfin, là, on ne peut pas ouvrir le capital. Cependant, pour répondre à votre question, on a quand même bénéficié du soutien de l'ADEME, qui est éminemment concerné par ce type de questions. On a tout fraîchement eu un retour positif de la région Occitanie pour un accompagnement, notamment dans les domaines d'économie circulaire. Et on est également soutenu par BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui ont cru en notre projet. Donc ça s'est fait un peu sur le tard, puisqu'il a fallu montrer la faisabilité, du sérieux qu'on mettait dans la démarche.
Ce sont des partenaires institutionnels, finalement.
Oui, alors pour moitié du budget et pour autre moitié, on s'est dirigé vers IES, donc qui est, vous connaissez, les acteurs connus de la finance solidaire. On fait également appel à un emprunt bancaire auprès de la NEF, vraisemblablement, pour poursuivre aussi dans l'éthique que l'on a, dans nos valeurs. Et voilà, c'est à peu près tout.
Vous êtes combien dans l'entreprise ?
Actuellement, salarié 2. Ouais. Et on travaille en externe avec toute la communication.
D'accord, ok. Et vous allez gagner de l'argent ? De quelle façon ?
Oui, alors le modèle économique du label est complètement viable. On est sur de la redevance de marque. On n'a rien inventé à ce niveau-là. Donc les labels bio fonctionnent comme ça, le label Origine France Garantie. Donc les fabricants payent un petit forfait pour utiliser la marque. Tout simplement. La seule chose qui n'est pas facturée, que nous ne facturons pas, c'est l'audit, puisqu'on est bien sur une facturation indépendante. Mais voilà, c'est une petite contribution des marques qui nous permettra de nous développer, de promouvoir Long Time, d'organiser des événements autour de la production et de la consommation responsable et durable. Après, on a vraiment la volonté de se développer en collaboration avec l'intégralité des parties prenantes. Ça a été dès le départ notre démarche et j'espère poursuivre en ce sens.
Jean-Marc, une autre question.
On peut lire sur votre site internet, et je cite... Nous souhaitons, à notre échelle, favoriser l'émergence d'un nouveau modèle de société plus humaniste, respectueux de l'environnement et de nos sociétés. Et un peu plus loin, par le label Long Time, il s'agit de mettre en valeur une consommation différente, visant donc à produire différemment. L'origine du label est corrélée au fait que la quasi-totalité des citoyens veulent une transformation de notre société de consommation. C'est un réel changement de paradigme technico-économique qui est attendu afin de consommer mieux et plus durablement. C'est un objectif ambitieux.
Oui, hein, tout à fait. Hein,
certains partis politiques pourraient s'y reconnaître. Oui, alors, ne pensez-vous pas que le succès de votre démarche passe au préalable, je dis bien, par un travail d'information et d'éducation auprès des consommateurs pour qu'ils s'approprient les enjeux et changent leur comportement. Mmh. Et c'est à partir de ce changement de comportement que les industriels vont dire bah, « finalement, le jachère, il est là ».
C'est complètement ça. C'est totalement ça. On sait qu'il y a une volonté de changer. Encore faut-il en avoir les moyens. Donc c'est ce à quoi on répond. Et évidemment, le succès et la réussite du label reposent sur ces deux pans, qui est un, que le consommateur plébiscite le label pour que le fabricant ait une raison de rentrer dans la démarche. Mais alors, donc, ça, c'est effectivement ce que l'on peut croire. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, je suis agréablement surprise, parce qu'avec le peu de communication qu'on a fait aujourd'hui, où on n'a pas du tout lancé l'effort commercial, entre guillemets, et la démarche envers les fabricants, on a d'ores et déjà, on comptabilise pas mal de volonté. Donc, il y a des fabricants qui se retrouvent dans notre démarche et qui trouvent enfin le moyen de communiquer sur tous les efforts qu'ils font. Et je suis agréablement surprise par cela. Donc oui, il y a du travail de sensibilisation et d'information, mais là on n'est pas tout seul à faire ça. L'ADEME travaille beaucoup sur ces sujets et on compte là aussi, on compte collaborer étroitement sur le volet informatif, y compris avec des France Nature Environnement, des Zero Waste, des Amis de la Terre, toutes ces associations qui sont là, elles militantes, qui poussent
sur
aussi
le terrain,
les politiques
oui.
sur le terrain, sur ce terrain-là. Voilà, nous il faut savoir qu'on est un outil parmi de bonnes pratiques. Voilà, les Repair Café, sont des secteurs,
ouais.
Effectivement, sont des acteurs majeurs dans notre thématique, mais aussi les réparateurs professionnels. C'est vraiment en entraînant toute la sphère. Qu'il va y avoir une prise de considération.
Mais l'action est double, en fait, envers le consommateur, qui lui aussi doit changer sa vision de la consommation. Et les marques.
C'est ça. Alors, en tant que consommateur, effectivement, il faut comprendre que, à un moment donné, face à deux produits, en plébiscitant le produit labellisé Long Time, y compris, même s'il est un petit peu plus cher, y compris, je ne dis pas que ça sera systématique, mais y compris, en fait, qu'est-ce qu'il vaut mieux, acheter une machine à laver qui va être prévue pour fonctionner 10, 15 et réparable jusque 20 ans, l'acheter, je vais dire, 600 euros, ou acheter une machine à laver qui va me durer 5-6 ans et qui va être irréparable au bout de 6 ans, que j'aurais payé 250 ou 300 euros. Même au niveau du calcul, sans même de sensibilité ou de considération écologique ou quoi, au niveau du portefeuille, ça a tout son sens. C'est un impact évident. Notre démarche est évidemment écologique.
Bien sûr, mais il y a toute une éducation aussi à refaire, en fait. Beaucoup de pédagogie autour de ça, que l'on avait il y a peut-être, j'allais dire, 15 ans.
Complètement.
Et que l'on a perdu.
Alors, voilà. Pour faire pas mal de... On a tourné des petites conférences citoyennes. Alors, il y a une certaine génération qui est très sensible et qui a vu, en fait, les choses changer ces dernières années et de manière... ils sont limite outrés de qu'on en soit arrivé là. Parce que c'est des personnes qui avaient l'habitude, qui étaient attachées presque sentimentalement. Bon, le mot est un peu fort, mais...
À leur lave-linge, à leurs objets.
C'est vrai que les objets, à l'époque, n'avaient pas la même valeur. Les réparateurs nous disaient, un téléviseur, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'était l'équivalent d'un SMIC. Je veux dire, dès qu'il tombait en panne, on allait voir le réparateur du coin qui changeait aux composants les cartes électroniques et puis ça repartait. Aujourd'hui, la valeur est telle, toujours pareil, on a voulu toujours moins cher, ce qui a fait évidemment changer les moyens de production aussi, on fait des produits moins chers, mais on ne peut pas avoir une qualité équivalente.
Avec une main-d'œuvre. Ça aussi.
Voilà. Mais ça, c'est encore un autre débat.
Une autre question.
Alors, je suis allé aussi sur votre site Long Time et j'ai lu l'éligibilité du candidat dans une démarche d'attestation qualité doit être cohérente par rapport à ses valeurs et stratégies existantes. L'entreprise n'a pas été accusée ni reconnue responsable de violations éthiques, de pratiques commerciales clairement contraires à la qualité et l'éthique, pratiques d'obsolescence programmée, espionnage industriel, fraude, etc., ou environnemental majeur au cours des 10 dernières années. Est-ce que vous vous adressez aux entreprises finalement parfaites, quoi?
Non, pas
Est-ce que ce n'est pas plutôt justement auprès des entreprises qui ont failli sur certains de ces points qu'il faut travailler pour faire évoluer leurs valeurs, leurs pratiques, depuis la conception jusqu'à la fabrication, en passant par la distribution?
Disons que cette clause, l'idée, c'était de... On ne veut pas être un marquage de greenwashing, comme on dit, c'est-à-dire où il suffirait de respecter les critères du label et finalement redorer toute son image. Honnêtement, on pensait à personne en particulier. La seule chose qui nous importe, c'est qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Et on se... laisse le droit de... libre de refuser un candidat dont l'image viendrait en fait ternir l'image du label. Ni plus ni moins.
Il ne faut pas que ce soit un argument marketing
pur
et simple.
Honnêtement, c'est peu probable vu le niveau d'exigence que l'on a. Après, on n'est pas à l'abri qu'une entreprise, sur un produit, mette le paquet et en fait soit long time et vienne un petit peu, parce que ce n'est pas impossible qu'après le consommateur puisse faire des associations et se dire « Ah ben, tiens, l'aspirateur ici, il est labellisé long time, donc peut-être que,
ce qui veut dire que...
le lave-linge qu'il produit, il sera long time aussi. » Faire attention.
Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement le produit que vous labellisez, c'est aussi l'entreprise.
Non, on labellise le produit, c'est le produit qui porte le label, mais de fait, c'est associé à une marque. Donc après, là, c'est juste la perception derrière que le consommateur peut avoir. L'idée, c'est que ce soit quand même cohérent. Voilà. Bon, je n'ai pas assez d'expérience pour voir si ça sera applicable. En tout cas, on s'est laissé le droit de...
Alors, réparer les produits nécessite un réseau de réparateurs, qui n'existe probablement plus aujourd'hui, il y en a très peu, et un réseau de distribution des pièces détachées. Alors, pour les pièces détachées, c'est facile, Internet, on peut avoir des pièces par Internet, ça permet d'acquérir les pièces facilement. Mais encore que le bilan carbone n'est pas forcément... il faut le voir. Bon, quant aux réparateurs, il faut du temps pour créer une compétence et la mettre en place. Alors, est-ce que les industriels sont convaincus et prêts à s'y engager?
Alors, il y a des beaux exemples. Seb en fait partie. Donc, le groupe Seb qui s'est engagé dans la réparabilité de ses produits depuis maintenant quelques années et qui est un franc succès. Il y a eu pas mal de reportages sur leur démarche. Sur le monde de la réparation, il y a un enjeu concret qui est de créer de l'emploi qui soit en plus non délocalisable, parce que c'est de l'emploi de proximité, qui est technique certes, mais on sait former des réparateurs. C'est un secteur qui a énormément perdu. Je crois qu'on parle de 10 000... Je crois qu'on parle de beaucoup plus en une dizaine d'années. On parle de 50 000 emplois détruits. C'est assez conséquent. Évidemment, ça rentre dans notre spectre. On compte influer aussi à redynamiser ce secteur-là. Après, il y a d'autres mouvements qui sont en place. Il y a l'auto-réparation. Donc, on voit plusieurs tutos sur Internet qui peuvent servir, notamment sur l'entretien. Je trouve ça assez intéressant sur l'entretien des produits. Comment bien entretenir ces produits? On ne lit pas les notices, donc pourquoi pas regarder via des tutos, et ça a un bilan carbone quasi nul. Effectivement, tout ce qui est Repair Café, association de réparation, qui là...
On en parlait dans le goût d'entreprendre.
C'est vraiment très important, et je trouve que c'est complémentaire, évidemment, au réseau de distribution professionnelle, parce que se retrouvent chez les réparateurs des produits qui n'iraient pas en réparation professionnelle. Souvent des produits à bas coût, type votre grille-pain, qui coûte 30 euros en magasin. On envisage difficilement d'aller payer une heure de main-d'œuvre chez un réparateur. Donc voilà.
Mais est-ce que ça veut dire que, justement, et c'était ma question suivante, est-ce que l'économie circulaire, elle a besoin aussi des partenaires comme Repair Café ou Repair Together, donc des associations solidaires pour se mettre en œuvre? Et on ne peut pas compter que sur les industriels.
Ah non, moi je suis absolument convaincue que c'est l'association de tous ces acteurs. Et j'irai même plus loin, vous connaissez le réseau Envie. qui font du réemploi, qui font de la réparation, qui font de l'insertion, qui font de la revente, donc qui donnent des secondes vies aux objets, à mon sens, ça fait complètement partie de la boucle. Et on est dans une démarche éminemment circulaire et pour moi, ce n'est pas que de la responsabilité du fabricant. On est vraiment tous concernés.
Par la réparation.
Par la réparation, par l'allongement de la durée de vie.
Effectivement, oui, tout à fait. Jean-Marc, très vite.
Sur votre site internet, on peut cliquer sur un petit rectangle qui s'appelle « Nous rejoindre ». Ça veut dire quoi, « Nous rejoindre » ?
Pour recruter.
Alors, on recrute, oui. On recrute en 2019 un profil pour déployer le label au niveau européen, parce que c'est l'objectif.
Ouais.
Et ce, immédiatement, en fait, puisqu'on va aller voir nos voisins. On peut nous rejoindre parce qu'on est ouvert à tout type d'échanges. Voilà, donc que ce soit pour une discussion, que ce soit pour des projets, que ce soit pour intégrer ce qu'on essaye d'appeler aujourd'hui un comité stratégique, c'est encore en pourparlers, mais voilà, on a la volonté d'avancer ensemble et de prendre les bonnes idées et de prendre les compétences de chacun pour parfaire notre analyse et faire que Longtime ait une longue vie.
Voilà, absolument, on allait conclure là-dessus. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet, Elsa.
Donc c'est longtimelabel.com.
Et vous avez un autre site également.
Il y a le site Etikis, qu'on n'a pas touché depuis un moment, mais qui présente un peu plus la démarche côté association-entreprise.
Voilà, merci à vous.
Merci à vous.
Merci Jean-Marc Fontaine de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Pardon, vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.